Si vous étiez là le 12 juillet, vous vous souvenez sans doute que la prédication ce jour-là s'intitulait « Compter dans la vie des autres ». Elle s'appuyait en particulier sur un épisode de la vie de trois piliers de l'Église de Jérusalem au début du livre des Actes, Apollos, Priscille et Aquila. 15 jours plus tard, c'est un autre pilier de l'Église dite primitive qui nous a intéressés, à savoir Étienne. Et ce matin, nous poursuivons cette mini-série estivale sur des figures emblématiques du livre des Actes pour considérer en partie la vie de Barnabas. Le Nouveau Testament ne nous dit pas grand-chose à son sujet. Luc, l'auteur du livre des Actes, nous dit seulement au chapitre 11, verset 24, que Barnabas était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Ce qui m'a surtout intéressé chez Barnabas, parmi tout ce que l'on peut dire, c'est ce que j'ai considéré comme sa grande capacité à encourager les autres. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler ce matin. Avec Apollos, Priscille et Aquila, nous avons vu que nous pouvons compter positivement dans la vie des autres. Avec Barnabas, nous allons voir, au travers des différentes étapes de sa vie, que l'encouragement est certainement une des meilleures manières de compter dans la vie des autres. J'ai intitulé ce message « Barnabas ou l'art d'encourager ». Nous parlons de Barnabas, mais il se trouve que ce n'est que son surnom, en réalité, puisque ses parents l'ont appelé Joseph. Nous lisons dans Actes 4, verset 36, que ce sont les apôtres qui l'ont surnommé ainsi après sa conversion. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous apprenons ici que Barnabas signifie « fils d'exhortation ». Pour être précis, Barnabas est en fait la forme grecque, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est la forme grecque d'un nom araméen qui veut dire « fils de prophétie ». Et Luc interprète ce nom « fils de prophétie » comme fils d'exhortation, et on peut aussi traduire fils de consolation ou encore fils d'encouragement. Fils d'exhortation, fils de consolation, fils d'encouragement. Quel beau surnom que celui de Barnabas. Un surnom qui n'a pas été donné au hasard par les apôtres, mais à n'en pas douter, certainement parce qu'il reflétait la personnalité de Barnabas. Ainsi, Joseph, surnommé Barnabas, était à l'évidence un homme porté vers les autres, un homme plein de bienveillance, un homme d'encouragement, de consolation. Si son nom nous l'indique, ses actes nous le confirment. Barnabas était un homme d'encouragement et cela apparaît clairement dès la première mention de Barnabas au chapitre 4 du livre des Actes, versets 32 à 37. Je lis ces quelques versets qui rejoignent ceux que nous avions lus précédemment. « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. » Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous lisons au début du verset 34 qu'il n'y avait parmi eux, parmi ces premiers chrétiens, aucun indigent. Personne dans le besoin. Pourquoi ? Parce que toujours au verset 4, à la suite, nous lisons « Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, le déposaient aux pieds des apôtres et l'ont distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. » Et puis, au verset 36, nous apprenons que Barnabas faisait partie de ces propriétaires terriens qui ont vendu un bien, qui en ont donné l'argent et qui a donné l'argent aux apôtres. Luc nous présente ici Barnabas de façon très sommaire. Il ne nous est rien dit, par exemple, sur sa conversion. Il nous est seulement dit qu'il était lévite, qu'il était originaire de Chypre, et donc qu'il a vendu un champ au profit des chrétiens qui étaient dans le besoin. Voilà à ce stade ce que Luc nous dit de Barnabas. Autrement dit, pas grand-chose. Et pourtant, ce pas grand-chose est suffisant pour comprendre déjà qui est Barnabas. Pour comprendre que Barnabas est non seulement un homme généreux, mais aussi un homme d'encouragement, un homme porté vers les autres. Parce que sa générosité avec celle des autres a dû être un puissant encouragement pour ces chrétiens qui étaient dans le besoin. Oui, Barnabas est un fils de consolation, un homme d'encouragement. Et à la base de sa générosité se trouvait certainement un cœur sensible aux besoins des autres, un cœur rempli d'amour pour les autres, le genre de cœur qu'il nous faut avoir si nous voulons être nous-mêmes un homme ou une femme d'encouragement, de consolation. J'ouvre ici une petite parenthèse pour dire que ce qui me paraît imitable dans cet exemple que nous avons ici de Barnabas, ce n'est pas premièrement la vente de son champ comme quelque chose qu'il nous faudrait faire si nous possédons un bien, mais plutôt sa sensibilité aux autres. Une sensibilité qui, dans ce contexte-là, va se manifester par la vente de ce bien, mais qui aurait pu se manifester autrement et qui, dans d'autres contextes, se manifestera autrement. Il faut donc que nous veillions toujours à ne pas tomber dans l'ornière qui consiste à faire d'un récit narratif un récit normatif. Ce n'est pas le but de ce récit. Je le redis, ce qui est avant tout imitable ici, c'est la sensibilité de Barnabas aux autres. Et il a mis en œuvre cette sensibilité comme le Seigneur l'a certainement conduit. Je referme la parenthèse. Oui, Barnabas était un homme généreux, un homme sensible aux autres, un homme d'encouragement. Et cela se voit dans ses actes. Et la suite du récit des actes va nous le confirmer. Après les versets du chapitre 4, nous n'entendons plus parler de Barnabas jusqu'au chapitre 9. Alors ça, c'est toutes les semaines, on y a droit à peu près tous les jours, ça va s'arrêter dans quelques instants. Et là, donc au chapitre 9, c'est encore une fois sa propension à l'encouragement que nous allons voir, son attention aux besoins des autres qui va ressortir au travers de la main qu'il va tendre à Saul de Tarse. Nous lisons au chapitre 8, nous y venons dans un instant, que Saul de Tarse persécutait l'Église de Jésus-Christ. Il persécutait les disciples de Jésus. Il était rempli de zèle pour cela, pour cette cause qu'il croyait juste. Et nous lisons donc ici au verset 3 du chapitre 8 que Saul ravageait l'Église. C'est pas juste une petite... Il ne leur mettait pas juste des bâtons dans les roues, il cherchait à détruire l'Église. Et il mettait en prison tous ceux qui l'arrêtaient. Paul cherchait à détruire l'Église, mais le Seigneur avait d'autres plans pour lui. Et c'est ainsi, par une conversion extraordinaire qui nous est rapportée au début du chapitre 9, que Saul, le persécuteur de chrétiens, est devenu Saul, le disciple de Jésus. Après sa conversion, Saul de Tarse va rester quelques jours à Damas. Rempli de zèle dans son ignorance, nous le voyons maintenant rempli de zèle pour la cause de Jésus. Et dès le début, nous le voyons prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce que nous lisons à partir du verset 20, chapitre 9, verset 20. « Et aussitôt, il s'agit ici de Saul de Tarse, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ? Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Imaginez un instant la situation. Il n'est pas étonnant que ceux qui entendent à Damas, Saul de Tarse, dire que Jésus est le Christ, qu'ils aient des doutes, à minima qu'ils soient dans l'étonnement. Et l'inévitable va se produire. Saul de Tarse, disciple de Jésus, va devenir rapidement gênant pour les Juifs, qui étaient ses alliés jusque-là, qui se mettent alors à comploter contre lui et l'obligeant ainsi à fuir de nuit pour sauver sa vie. C'est ce que nous pouvons lire à la suite au verset 23 à 25. Les Juifs se concertèrent pour le faire mourir, mais de nuit, verset 25, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Et c'est ainsi que Saul de Tarse arrive à Jérusalem. Et quand il arrive à Jérusalem, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Eh bien, il cherche tout naturellement à se joindre aux chrétiens. Rien de plus normal, n'est-ce pas ? Ils sont maintenant frères et sœurs en Christ. Normal, peut-être. Sauf que la réputation de Saul n'est plus à faire. Elle est clairement établie et les réputations, ça ne se change pas comme ça d'un claquement de doigts. Saul est craint. On a peur de lui. On met en doute sa conversion. C'est certainement une ruse pour infiltrer les chrétiens et mieux les arrêter. Chapitre 9, verset 26. Nous lisons, arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, ce n'est pas possible, pas Saul de Tarse, pas après tout ce qu'il a fait aux chrétiens à Jérusalem et ailleurs. Et la position de Saul à ce moment-là est très inconfortable. Les Juifs, d'un côté, veulent le faire mourir parce qu'il a retourné sa veste. Et puis les chrétiens le craignent, l'évitent, le fuient même, parce que sa réputation de persécuteur est toujours là. Et c'est ici que nous retrouvons Barnabas, notre fils d'exhortation, notre fils de consolation, notre fils d'encouragement. Et le texte nous fait comprendre que Barnabas a sans doute pris son courage à deux mains et est allé trouver Saul de Tarse. Il l'a écouté et puis il l'a conduit vers les apôtres et là, devant les apôtres, il a plaidé sa cause. C'est ce que nous lisons à la suite du texte. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Dans la famille, je prends des risques pour les autres. Je ne sais pas si vous l'avez, ce jeu de cette famille. Je demande le fils. C'est comme ça qu'on joue, hein ? On demande le fils, la fille, le grand-père. Je demande le fils d'encouragement. je demande Barnabas. Barnabas qui a tendu la main à Saul, alors que personne ne le faisait. Barnabas qui s'est mouillé pour Saul, quand tous le fuyaient. Quel encouragement! Quel encouragement cela a dû être pour Saul de Tarse. Imaginez Saul de Tarse, isolé, et Barnabas, ce pilier de l'Église naissante, qui vient le trouver. Que se serait-il passé si Barnabas n'avait pas pris Saul sous son aile? Saul serait-il devenu l'apôtre Paul? Paul aurait-il eu le même impact missionnaire? Ce que nous pouvons dire ici, c'est que le plan de Dieu pour Saul passait par Barnabas, à l'évidence. Et que si Barnabas n'avait pas agi, ce qu'on peut imaginer, Dieu aurait certainement suscité quelqu'un d'autre pour le faire. Quoi qu'il en soit, Barnabas a agi. Et il a été un maillon important par son action et par son encouragement dans le plan de Dieu pour Saul et pour la propagation de l'Évangile. Chers amis, qui peut dire ce que Dieu peut faire au travers d'une parole d'encouragement? Qui peut dire ce que Dieu peut faire par notre bienveillance envers les autres, par notre main d'amour que nous tendons? Qui peut dire ce que Dieu en fera? Vous connaissez sans doute cette citation. Je n'ai pas retrouvé l'auteur, ça doit être un auteur inconnu, qui dit « Flatte-moi, et il se peut que je te croie. Critique-moi, et il se peut que je ne t'aime pas. Ignore-moi, il se peut que je ne te pardonne pas. Encourage-moi, et je ne t'oublierai jamais. » Encourage-moi, et je ne t'oublierai jamais. Oui, une parole d'encouragement dite à propos peut changer beaucoup de choses. Peut même parfois, bien évidemment pas toujours, mais parfois, dans certaines circonstances, changer toute une vie. Le livre des Proverbes, je n'avais que l'embarras du choix, le dit de différentes manières. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 12, 18. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La vie, la mort, oui, parfois, mais aussi la vie. Proverbe 25, 11, des pommes d'or sur des ciselures d'argent, autant dire quelque chose de magnifique, telle est une parole dite à propos. Une parole dite à propos. Après la main tendue aux chrétiens démunis de Jérusalem, après la main tendue à Saul de Tarse, nous partons maintenant à Antioche, où Barnabas va encore une fois tendre la main. Après la mort d'Étienne, la mort en martyr d'Étienne, il y a eu une persécution, une grande persécution, lisons-nous au début du chapitre 8. Et les chrétiens de Jérusalem se sont dispersés. Certains sont allés jusqu'en Phénicie, d'autres jusqu'en Chypre et certains jusqu'à Antioche. Et dans la dispersion de ces chrétiens, ils ont tout d'abord témoigné aux Juifs, naturellement témoigné aux Juifs, et même que aux Juifs. Mais à Antioche, lisons-nous, certains chrétiens ont aussi témoigné aux Grecs qui étaient présents, pas seulement aux Juifs, aussi aux Grecs. Et voilà ce que nous lisons au chapitre 11, versets 19 à 21. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. La nouvelle de ces conversion inattendue à Antioche va arriver jusqu'aux oreilles des responsables de Jérusalem, de l'Église à Jérusalem, de ceux qui étaient restés. Incroyable, on se convertit, On se tourne vers Jésus, mais problème, ce sont des Grecs, ce ne sont pas des Juifs. Est-ce que l'Évangile est aussi pour les Grecs ? À l'époque, on n'a pas encore résolu cette question. D'ailleurs, elle ne fait que se poser à ce moment-là. Que faire ? Que faire de cette nouvelle qui nous parvient d'Antioche ? À l'évidence, il fallait faire quelque chose. À l'évidence, il fallait envoyer quelqu'un pour prendre la mesure de ce qui se passait et en avoir le cœur net. Il fallait savoir si ce qui se passait à Antioche était de Dieu ou pas, tout simplement. Alors qu'ont-ils fait ? Qui ont-ils envoyé ? Et je pense que vous ne devinerez jamais. Ils ont envoyé Barnabas, bien sûr. Je dis bien sûr parce que on a compris maintenant, et il l'avait compris avant nous, que Barnabas était un homme plein de foi et d'Esprit Saint, nous l'avons lu, mais c'était un homme bon, un homme vraisemblablement plein de tact et d'amour pour Dieu et pour les autres. Un homme qui, à l'évidence, savait écouter avant de parler, un homme qui avait le souci des autres dans la justice et dans la vérité. Et c'est ainsi que Barnabas part donc à Antioche. Et que fait-il en arrivant ? Ben, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il va d'abord chercher à comprendre la situation. Et puis après avoir vu, constaté que Dieu était à l'œuvre à Antioche parmi ces Grecs, eh ben, il les a encouragés, il les a exhortés, il s'est réjoui avec eux. Et c'était pas rien dans le contexte de l'époque. Que cette première église de païens qui était en train de se former. Je poursuis la lecture au chapitre 11, verset 22. « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu attaché au Seigneur. » Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Oui, résolument, Barnabas était vraiment un homme d'encouragement, un homme qui avait mis sa vie au service du Seigneur et au service des autres. J'aimerais terminer avec un dernier exemple. Il s'agit de l'épisode où Barnabas va choisir de garder Jean-Marc avec lui. Barnabas et Saul ont collaboré pendant ce qu'on appelle le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et dans ce voyage, ils ont emmené avec eux un certain Jean-Marc. Parfois c'est Jean-Marc, parfois c'est Marc, mais c'est la même personne. Ce voyage les a d'abord amenés à Chypre. Là, ils sont d'abord restés à Salamine quelque temps, puis ils ont traversé l'île pour aller jusqu'à Paphos, et ensuite de Paphos, ils ont traversé pour aller à Perge, en Pamphylie, ce qui correspond à la Turquie actuelle. Tout ça, c'est au chapitre 14, versets 24 et 25. Et là, à Perge, en Pamphylie, pour une raison qui ne nous est pas donnée, ce Jean-Marc a décidé de quitter Paul et Saul et Barnabas et de retourner à Jérusalem. Ils ont poursuivi leur voyage, puis sont revenus à Jérusalem. Il va y avoir le concile de Jérusalem au chapitre 15, et nous faisons un bond en avant, et nous retrouvons Saul, qui est maintenant appelé Paul, et Barnabas. L'ordre s'inverse, c'est plus Barnabas et Saul, mais Paul et Barnabas. Et donc nous les retrouvons après le concile de Jérusalem, à la veille du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et voilà ce que nous lisons. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Ça, c'était le premier voyage. Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc. On apprendra dans un autre texte que c'est son cousin, et on comprend qu'il y a aussi des liens affectifs qui sont là. Mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie. et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent, Paul et Barnabas. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Barnabas voulait emmener Jean-Marc avec lui. Mais Paul n'était pas d'accord. Problème. Et pourquoi n'était-il pas d'accord ? Le verset 37 et 38 nous donne la raison, puisque Jean-Marc leur avait fait faux bond en Pamphylie et Paul ne voulait pas emmener Jean-Marc avec eux parce qu'il estimait qu'il avait failli. À ses yeux, il avait failli. Et pour lui, il était hors de question qu'ils viennent avec eux. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. Et le texte parle même pas d'un petit désaccord, mais d'un dissentiment si aigre, dit le texte, comprenez, un désaccord profond et douloureux, tant et si bien qu'ils se sont séparés. Paul est parti avec Silas et Barnabas est parti avec Jean-Marc. Jean-Marc avait certainement failli, il n'y a pas de doute là-dessus. Et sans doute que Paul avait de bonnes raisons de ne pas vouloir le reprendre avec lui, de bonnes raisons de douter de lui. Mais ce que nous constatons dans le texte, c'est que Barnabas, lui, a cru en lui, ne s'est pas arrêté à ces mêmes raisons. Barnabas s'est mouillé pour Jean-Marc, Barnabas lui a tendu la main, et il lui a offert, d'une certaine manière, une deuxième chance, en homme d'encouragement qu'il était. Chers amis, il nous arrive à tous de faillir. Et il nous arrive à tous d'être les témoins de la faute d'un autre. Sommes-nous de ceux ou de celles qui donnent une deuxième chance ? Quand elle est possible, bien sûr. Sommes-nous de celles ou de ceux qui manient à merveille la guillotine et qui, par principe, ne donnent pas de deuxième chance ? Ou alors, très très difficilement. Ce qui est certain, c'est qu'il est généralement plus facile de jeter la pierre plutôt que de tendre la main. Il est plus facile de conclure que les bornes ont été irrémédiablement dépassées plutôt que d'accompagner celui ou celle qui a chuté, celui ou celle qui est dans la peine, celui ou celle qui a du mal sur son propre chemin. Alors bien évidemment, il arrive parfois que les bornes soient vraiment dépassées. Et il arrive que le point de non-retour soit irrémédiablement franchi. Mais cela vient quand même rarement dès la première fois, dès la première faute. Dès le premier écart. En fait, je crois profondément que Dieu désire que nous soyons des hommes et des femmes d'encouragement, qui encouragent les autres, qui savent donner une deuxième, une troisième chance aux autres. Tout simplement, qui vivent la grâce de Dieu qui les accueille sans arrêt, qu'ils ont reçue eux-mêmes. Pierre a demandé à Jésus « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Il dit « Est-ce que j'irai jusqu'à 7 fois ?» ce qui semblait déjà être beaucoup pour Pierre. Jésus lui dit pas une fois, lui dit pas 7 fois. Il lui dit 70 fois 7 fois. Et je pense qu'il faut comprendre que ça veut dire autant de fois que nécessaire. Autant de fois qu'il reviendra te demander pardon, tu lui pardonneras. Combien de relations dans les familles sont au point mort ou alors complètement coupées parce qu'il n'y a pas eu cette deuxième, cette troisième ou cette quatrième chance? Combien de relations dans l'Église sont au point mort, sont coupées ou superficielles parce qu'il n'y a pas eu la main tendue de la nouvelle chance, parce qu'il n'y a pas eu la main tendue du pardon, parce qu'il n'y a pas eu la main tendue de la grâce, qu'il est facile d'être intransigeant dans nos relations, qu'il est facile de manquer de grâce, celle-là même dont nous avons nous-mêmes tellement besoin. Alors ici, dans notre texte, bien sûr, nous ne savons pas le détail du désaccord entre Paul et Jean-Marc. Mais ce que nous savons, c'est la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire nous fait comprendre que Barnabas a eu raison. Il a eu raison de croire en Jean-Marc. Il a eu raison de lui tendre la main. Alors bien sûr, ça aurait aussi pu mal se passer. Et parfois, ça se passe mal. Il y a des mains tendues qui n'aboutissent pas. Il y a des mains tendues qui sont des échecs, c'est aussi la réalité. Mais là, ça va bien se passer. Et même l'apôtre Paul va le reconnaître quand il écrit à la fin de sa lettre aux Colossiens ceci. « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. » C'est Paul qui dit ça. Lui qui a été fâché avec Barnabas au point de se séparer et qui dit maintenant, si Jean-Marc vient chez vous, faites-lui bon accueil. Et à Timothée, toujours Paul va demander de prendre Jean-Marc avec lui. Et la raison qu'il donne est quand même très belle, parce qu'il est fort utile pour le service, dit-il. Lui qui semblait avoir perdu tous ses crédits aux yeux de Paul. Paul, ça en dit aussi beaucoup sur Paul, hein, qui a su comprendre que les choses avaient changé. Mais voilà, Luc est seul avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. Alors, il n'y a pas de certitude historique, mais nous avons des indices, enfin des éléments qui nous laisse à penser que, enfin c'est ce que dit un certain Papias, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était évêque de Hiérapolis dans la première moitié du IIe siècle, et qui dans ses écrits attribue la rédaction de l'évangile de Marc à ce Marc. On ne le sait pas si c'est lui ou pas, mais ça serait quand même un beau revirement de situation. Si l'auteur de l'évangile de Marc était ce Marc auquel Barnabas tend la main dans notre texte. Tout cela, en tout cas, parce que Barnabas a cru en lui, parce que Barnabas lui a tendu la main. Une chose est sûre à la fin de ce message, c'est que nous avons tous besoin d'encouragement. Certains peut-être, ou à certains moments de notre vie, plus qu'à d'autres, c'est une évidence. Mais personne, même les plus forts parmi nous, ne sont au-dessus de ce besoin-là. Et puis nous sommes, je crois, tous appelés à nous encourager les uns les autres. Et il est important dans ce domaine d'être à tour de rôle donneur et receveur, hein, et de ne pas se cantonner dans un rôle unique. Je disais que nous sommes tous appelés à encourager les autres et je m'appuie en particulier sur ce verset d'Éphésiens 4, verset 29, qui le dit avec d'autres mots, mais qui dit la même chose, et qui dit ceci, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Alors ça ne veut pas dire que pour encourager, je dois nécessairement toujours citer la Bible, citer des versets bibliques, faire de longs discours, ce n'est pas ce que dit le texte. Hein. Parfois un mot suffit, quelques mots, une phrase, parfois le silence, parfois un sourire, parfois une tape amicale, parfois un coup de fil, parfois un cadeau. Parfois une carte, une lettre, un email, que sais-je. Il y a tant de moyens pour nous de tendre la main. L'important dans l'encouragement, ce n'est pas tellement ce que je vais faire. Ce n'est pas tellement ce que je dis ou ce que je fais. Bien sûr, ça a son importance. Mais avant tout, ce qui est important, c'est l'attitude du cœur. C'est l'amour que je vais essayer de manifester, d'exprimer au travers ce que je dis et ce que je fais. C'est finalement ça le plus important. Parce que si l'amour est là, je vais trouver les mots, même s'ils sont maladroits. Il arrive parfois que nous ayons peur de ne pas savoir quoi dire. Ça arrive quand même souvent. Enfin, je pense que ça n'arrive pas qu'à moi, de nous retrouver dans une situation où on se dit « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?» Et on a envie de partir dans l'autre direction. Mais quand le cœur est rempli d'amour, et là nous pouvons le demander au Seigneur, quand nous sommes guidés par le Seigneur, nous allons finir par trouver les mots, le Saint-Esprit saura, lui, encourager, même si nous n'avons peut-être pas trouvé tout à fait les bons mots, et puis parfois même des paroles maladroites peuvent finalement encourager quelqu'un qui discerne le cœur d'amour derrière les paroles maladroites, qui ne s'arrête pas aux paroles maladroites, mais qui voit l'intention, qui voit le cœur. Barnabas était clairement un homme d'encouragement, un homme de consolation, d'exhortation, et c'est un homme qui nous laisse un exemple à suivre. Alors, qu'en est-il maintenant de nous ? Que choisissons-nous d'être ? La balle est clairement dans notre camp. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous aide chacun à être un Barnabas, un fils d'encouragement ou une fille d'encouragement. Chers amis, qui allez-vous encourager aujourd'hui ? Qui vais-je encourager aujourd'hui ? Qui vais-je encourager cette semaine ? Puissions-nous recevoir l'encouragement qui nous est destiné avec humilité ? Et puis puissions-nous aussi le donner avec sagesse pour le bien de chacun et pour la gloire de Dieu. Amen.